Le balado Trace ton chemin est une initiative du Carrefour Jeunesse Emploi ANSIC Bordeaux Quartier-Ville en collaboration avec la Ville de Montréal. Mon nom est Nelson Roberge et je suis co-éditeur du magazine Baron Mag. Et dans ce balado, je m'entretiens avec Baudouin Wart, artiste peintre, mais aussi fondateur de l'entreprise d'affichage urbain Publicité Sauvage. L'entretien a eu lieu lors de la soirée thématique « Comment apprivoiser l'échec » du 16 septembre 2022. Bonne écoute!
Donc, on a eu deux personnes qui nous ont parlé du concept de l'échec, des histoires qu'ils ont eues à travers ça, des parcours. Et là, j'ai invité Baudouin, ici, présent, parce qu'on se connaît depuis un petit bout, et puis quand on a commencé à se connaître, il était tout dans une histoire, et je disais, puis on avait parlé à ce moment-là, peut-être un peu après, je t'ai dit, hey, il faudrait que tu viennes dans, je faisais des conférences ou des affaires sur l'échec, justement, puis je t'avais demandé, il faudrait que tu viennes en parler, puis tu disais, ça me fait plaisir un moment, tu sais, de venir en parler, sauf que là, en ce moment, c'est comme ça, tu sais. Donc, Baudouin de chez Publicité Sauvage.
Oui, bonjour.
Est-ce que tu voudrais, parce que Publicité Sauvage, pour ceux qui ne savent pas, c'est de l'affichage urbain que tu as commencé cette entreprise-là comme un jeune punk en 83?
Oui, 85 officiellement. 85. J'en ai fait avant, mais officiellement, c'est en 85-86.
Fait que dans ce temps-là, c'est qu'on se promène avec des affiches, puis on les met ses poteaux.
Oui, à l'époque, c'était partout.
C'était partout.
Parce que c'était illégal, premièrement. Il y avait un règlement de la Ville de Montréal qui empêchait l'affichage, qui datait de 1878. Et puis... fait que le principe même, moi, j'étais artiste à l'époque. J'avais fait mon bac à l'histoire en histoire de l'art à l'Université de Montréal, mais surtout pour ma pratique. J'étais rentré comme étudiant libre à l'université à 21 ans parce que j'ai un secondaire 4. Et j'ai toujours été très, très pris, passionné par l'art, par le dessin quand j'étais enfant. Et j'ai eu mon premier kit de peinture à l'âge de 10 ans. Et c'est comme ça que j'ai appris par autodidacte la peinture et le dessin. Fait que à l'université, je me suis amusé comme un fou parce que je suis arrivé à Montréal à 16 ans sur le marché du travail. J'ai découvert un monde que je n'imaginais pas. Et puis voilà, en 85, suite à avoir travaillé dans le milieu des arts avec des danseurs, avec la compagnie Édouard Locke, où j'ai supervisé la campagne d'affichage. Parce qu'à l'époque, évidemment, on avait des très bas salaires. J'étais sur un programme du BS. Puis, quand est venu le moment de programmer le spectacle de Human Sex au Spectrum de Montréal, ça, c'était en 85. Et là, j'ai dit à mon producteur, si j'engage du monde, mais si moi, je vais en poser des affiches, parce que j'engageais des équipes pour poser des affiches, tu vas-tu me payer? Fait qu'il dit, oui, je vais te payer. Fait que là, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment l'affichage sauvage. Parce que là, à l'époque, étant donné que ce n'était pas légal, ben on utilisait toutes les surfaces qu'on pouvait. Donc, les maisons abandonnées, les chantiers, les pylônes d'autoroute, les murs de ruelles, les belles colonnes de marbre des banques.
Tout.
Tout. Puis le principe aussi, au début, j'étais à pied. Fait que j'ai commencé avec un panier de linge sale dans lequel je mettais une boîte de carton et dans lequel je mettais mon seau de colle pour pas qu'on le voit. Puis là, je me promenais avec mon seau de colle et j'avais mon sac à dos avec mes affiches dedans. Fait que, puis là, je me promenais en Montréal puis j'avais toujours un verre vide pour qu'à un moment donné, au bout d'un certain temps, j'arrivais... Moi, à l'époque, c'est drôle parce que quand j'arrivais à Trois-Teurs, c'était le Dunkin' Donut. Puis je rentrais aux toilettes avec mon verre d'eau, je remplissais ma chaudière pour me faire de la colle, pour continuer à faire ma run. Puis le principe d'être à pied, bien là, c'était de déloader le plus d'affiches, parce que je partais avec 400-500 affiches sur mon dos. Fait qu'il fallait que j'y pose pour que ça s'allège et que je sois efficace. Puis mon but là-dedans, bien, c'était aussi, étant artiste, ayant mes amis étant tous des artistes, tous des jeunes gens de théâtre qui commençaient, les ténèbres de ce monde, les Lorraine Pintal, les Michel Lemieux, Édouard Locke, Marie Chouinard, c'est tous des gens qui étaient au début de leur carrière. Puis le seul moyen qu'on avait de faire notre promotion, c'était l'affiche, qui coûtait presque rien. C'était l'impression et la pose n'était pas très coûteuse. Puis ces organismes-là n'ont jamais eu des gros moyens pour les médias. Aujourd'hui, ça a changé, ceux qui sont les plus gros, mais les plus petits ont toujours besoin de ce type de médium-là. Fait que c'est ça, j'ai commencé à peu près à 25 ans. J'en ai fait pour Édouard. Le producteur m'a rappelé quelques mois plus tard après que j'ai été remercié parce qu'il ne pouvait plus me garder après un an et demi. Et là, j'ai dit oui, OK, je vais en faire. Et j'ai découvert un métier parce que j'aimais ça. Je pouvais travailler rapidement, poser mes affiches et à continuer ma création dans mon atelier. À l'époque, je faisais de la musique aussi beaucoup. J'étais punk, comme il disait. Fait que c'était parfait. Puis je travaillais à des heures différentes tout le temps. Puis moi, le 8 à 5, j'ai toujours eu beaucoup de difficultés avec ça. Fait que c'était parfait. C'était parfait jusqu'à ce que je découvre la compétition parce que j'étais pas le seul qui en faisait. Puis de fil en aiguille, avec les reproches que nos parents peuvent nous faire quand on est jeune, moi, mon père me disait toujours que je ne persévérais pas. Puis j'avais arrêté l'affichage au bout d'un an et demi, puis je me disais je ne serais jamais capable d'être un artiste parce que ça prenait beaucoup de place aussi. Et puis à un moment donné, il m'a répété encore « tu persévères jamais ». Puis j'ai dit « OK, Gabin, il m'a persévéré ». Et j'ai décidé de faire de l'affichage. Mais là, c'est devenu ma vie parce que la compétition… Donc là, je suis devenu un entrepreneur, mais en même temps, j'aimais ça parce que j'avais un défi, c'était de donner de la visibilité aux gens du milieu de la culture. Et c'est efficace, l'affichage. Les gens, quand ils mettent des affiches, ils ont des gens dans leur salle. Et j'ai eu la preuve à plusieurs reprises. Le cinéma, c'est la même chose. Le théâtre, la danse, la voix, les shows de rock, tout ça, n'importe quoi. C'est un support indispensable maintenant.
Mais il y a tout le temps, c'est ça. La culture se passe, peu importe qu'est-ce qui se passe. Il y a tout le temps quelque chose de culturel qui
Montréal est extraordinaire pour ça.
Ben oui, c'est ça. Puis tout le monde se promène dans les rues aussi. Fait que tu as réussi à te créer, en fin de compte, ta job. Puis à travers le temps, ben là, tu en as eu des embûches. Il y a eu plein d'affaires. Il y a eu les affaires avec la ville. Il y a eu les affaires avec…
Oui, ça, c'est des embûches, c'est pas des échecs.
C'est ça.
Mais je trouvais ça drôle, le terme échec, parce que quand tu es entrepreneur, en fait, à moins de tout perdre, je crois que là, tu peux considérer que tu as vraiment un échec. Mm-hmm. Mais l'option d'échec est vraiment pas dans notre façon de voir les choses. C'est qu'il y a toujours une solution. Mon énergie a toujours été comme ça. Il y a un problème, il y a une solution. Réfléchis, il y a une solution. Comment on va le faire?
Ça a été apprivoiser les problèmes.
Continuellement. La compétition, je suis chanceux, j'avais un compétiteur ou deux. Dans n'importe quel type d'entreprise, tu vas avoir au moins 60 compétiteurs, et si ce n'est pas plus, au moins. Fait que j'ai développé un créneau quand même, à cause que c'était illégal, qui était assez spécifique. C'est pas n'importe qui acceptait de se faire arrêter, d'être emmerdé avec les policiers. Il y en a qui sont pas toujours drôles, il y en a qui sont sympathiques, mais tu sais jamais. Aussi, tu es le bouc émissaire des chantiers des hommes de la construction quand ils sont pas de bonne humeur. Et voilà. Fait que l'échec, pour moi, je considère ça comme surtout aujourd'hui, j'ai failli avoir un échec. J'ai eu un échec, j'ai repensé à ça parce que j'ai parti dans ma vie plusieurs entreprises. Publicité Sauvage étant mon entreprise mère. Et les autres entreprises n'ont jamais été des entreprises rentables. Fait que vous voyez, c'est comme un peu des échecs pour moi, mais c'est des entreprises qui sont dormantes en ce moment et que je vais relancer à un moment donné. J'ai vécu un échec, j'avais un projet qui était d'ouvrir un centre des arts et de la santé dans les Laurentides. Le problème, quand tu as une vision, souvent tu es trop rapide. Surtout quand tu es jeune, tu es intempestif, tu veux que ça réussisse et tu fonces et tu ne fais pas toujours tout le processus parce que tu n'as pas les dons dans tout. Donc, tu y vas à l'intuition. J'ai acheté trop de terre, j'ai eu une montagne, j'ai eu 200 acres, j'avais les plans, j'avais tout ce qu'il fallait en main pour commencer notre projet, c'était de faire des mini-fermettes. Parce que 2 acres et demi permettent de construire 2 bâtiments. Ce qui te permet d'avoir une grange ou une grange qui peut se transformer en atelier. Mais tu peux être séparé d'une maison, c'est pas unifamilial. Mais là, c'est comme n'importe quoi, tu apprends tout sur le tas, les règlements d'une municipalité, tout ce que ça implique. Et à 4 jours avant que l'appel arrive, les plans sont faits, la municipalité vient nous voir, et c'est, on le savait, mais on n'avait jamais reparlé, il y a la taxe de parc qu'on appelle, qui est une taxe qui vient vous... quand tu vends un terrain, tu es supposé de payer une taxe de parc. Soit que tu réserves un terrain sur un domaine de 200 acres qui va être un parc pour la ville, ce qu'on avait fait, il y avait le choix. Et puis, ils sont arrivés à 4 jours. On a aussi le droit de l'utiliser pour les sentiers et loisirs. Nous, c'est des mini-fermettes. La ferme voisine, c'est un des Français qui avaient acheté, c'est un ancien domaine de chevaux. Fait qu'eux autres, ils voyaient l'hébergement des chevaux éventuellement, parce que tu as le droit à 2 chevaux sur une mini-fermette. Mais la piste de skidoo passait entre nous deux. Et les sentiers loisirs dans les campagnes permettaient à la ville de passer la piste de skidoo chez nous. Fait que là, je leur ai dit, écoutez, c'est un centre des arts et de la santé, des mini-fermettes, ça ne marche pas. Et là, dans la quarantaine, tu exploses, tu es en crise, tu n'es pas de bonne humeur. T'en veux à la municipalité, puis j'ai dit, bon, pas de projet, pas de piste de skidoo, parce qu'il n'y avait pas moyen de s'en sortir avec eux. Ça a été pour moi un échec, parce que souvent, j'y pense encore. J'ai encore des terrains à la campagne. Aujourd'hui, je suis sur un lot de 8 acres que je suis en train de nettoyer. Puis j'ai la possibilité de faire un petit projet. Comme je vous dis, nos rêves continuent toujours, sur 26 acres. On verra dans l'avenir. Fait que pour en revenir à l'échec, pour moi, ça a été un échec émotivement parce que je vois le potentiel qu'il y avait. C'est un rêve que j'ai, l'autosuffisance. J'ai toujours été attiré par la santé, la méditation. En tout cas, toute ma vie, j'ai été centré parce que je viens de la nature. J'ai été élevé sur une ferme. Puis en étant élevé sur une ferme avec...
Avoir des fermettes.
Oui, puis on ne parlait pas d'agriculture biologique, on mangeait biologique. Ce terme-là n'existait pas. Je veux dire, on mangeait de la bonne viande et on mangeait... Et on était en santé, puis on n'allait jamais au médecin. Puis sinon, ma mère nous soignait avec des médecines naturelles. Puis j'ai appris à m'auto-guérir toute ma vie avec des médecines naturelles, c'est-à-dire des tisanes, des plantes, des traitements... par l'énergie, ainsi de suite. Fait que c'est un parcours, en fin de compte, pour un entrepreneur, je pense. C'est pour ça que j'étais content mais d'en parler.
Oui, mais tu as bien dit aussi, tu sais, puis on en avait parlé tout à l'heure aussi avec quelqu'un d'autre, mais l'échec, le mot échec, bon, c'est tough, mais c'est peut-être plus parlant pour du monde qui ont pas vécu encore d'échec, parce que l'échec, en fin de compte, c'est un sentiment, tu sais, parce oui. que justement, c'est en vrai... Tu n'as pas eu un échec vraiment, c'est juste quelque chose que tu dois surmonter.
Oui.
Parce que toi, tu te sens peut-être comme « Ah, merde, tu sais, non, tu sais, j'ai manqué ma shot, j'ai manqué ma vie, j'ai manqué tout ça », mais après ça, tu repasses par-dessus,
oui.
puis là, tu te rends compte…
En fin de compte, c'est un travail avec soi-même. Le travail d'entrepreneur, c'est qu'on est des passionnés. On est des passionnés d'apprendre. Apprendre par l'action. Fait que tu ne peux pas savoir ce que tu vas faire, mais tu y vas. Fait que l'action, c'est ce qui t'amène à faire des erreurs. Mais c'est de tes erreurs que tu apprends le plus. Il n'y a rien qui est parfait parce que tu ne peux pas... D'ailleurs, c'est prouvé, les gens qui sortent de l'université, ils suivent le modèle universitaire et ils se rendent compte qu'ils n'ont rien appris. Qu'il n'y a rien qui arrive comme ils pensaient. Puis il n'y a rien qui se passe comme ils ont appris, comme ils ont passé des années à étudier. Puis là, ils ont des grosses gifles dans la gueule, comme on va dire. Puis en même temps, mais la passion de l'entrepreneuriat, c'est l'action que tu portes parce que tu es passionné. Fait que moi, j'ai toujours été passionné de l'art, puis de ne pas pouvoir mettre de l'art dans la rue, de la culture, pour soutenir en plus des gens. Je sais que je soutiens 25 personnes qui travaillent sur un spectacle. Quand ces gens-là viennent me dire « Hey, notre salle était pleine », bon, ils ont vendu des billets. Puis je sais aussi qu'ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Fait que c'est comme en même temps, c'est toujours… une roue sans fin de s'entraider. Puis je pense que le plus gros secret, je pense, dans l'entrepreneuriat, pour moi, ça a été de découvrir le service. C'est quand tu es au service de... J'étais jeune et j'étais au service de la vie, Et en découvrant la société, dans ma vingtaine, j'ai fait « fuck, je ne suis pas au service de la vie, je suis à mon service ». Puis là, je suis tombé dans l'ego. Et je me suis… Avec l'ego, ben, on apprend aussi à se péter la gueule. Là, j'ai un bon recul.
Tu peux en rire pas mal.
Parce que Publicité Sauvage existe aujourd'hui depuis 37 ans. Fait que entre le gars qui a commencé avec sa colle et j'ai 48 employés aujourd'hui, je travaille à travers le Canada avec des sous-traitants. Je peux même vendre les États-Unis, mais je me casse pas le beigne avec ça parce que ça devient le contrôle. On perd le contrôle quand on est en sous-traitance, donc la qualité n'est pas la même. Fait que dans ce sens-là, j'y vais mollo. Et dans le cas du Canada, bon, on fait le Québec. On travaille beaucoup avec Québec, Ottawa, Hull, puis Toronto, qui nous amène surtout les clients ici, major, qui sont parce que les bureaux de marketing sont à Toronto. On vend quelques campagnes à travers le Canada, mais j'insiste pas parce que j'ai une entente avec un partenaire qui on s'entend très bien. Puis ça fait maintenant, je crois, 25 ans qu'on fait affaire ensemble. Et ce qui a permis à ma compagnie aussi de ne pas avoir ce partenaire-là comme compétiteur, car il a été mon compétiteur pendant des années. Parce que moi aussi, j'ai ouvert à Toronto parce que dans mes esprits de grandeur, je voulais faire le Canada. Mais lui, il était déjà là, puis il faisait bien son travail, puis il venait à Montréal. Bref, de fil en aiguille. Pour en revenir à l'échec.
Oui, mais c'est ça. Mais ça pourrait être. Non, mais tu sais, ça peut. On va changer le mot échec. Avec toi, on va le changer par défi.
Oh, oui.
ça pourrait être quelque chose
ou
comme
expérience.
Ça. Expérience, ouais, ouais. C'est ça. Mais il y en a toutes sortes. La COVID, ça en a été un immense. Oui, là, parce qu'il n'y avait plus de culture. Ouais. Le monde ne pouvait plus sortir. Ouais. Ça en a été un que tu pouvais sentir comme « Ah, la fin va arriver » ou « Il devait y avoir quelque chose qui se passe ».
Ben, moi, déjà, j'ai eu des peurs comme ça en 2001 où la palissade de construction à Montréal a changé complètement. C'est devenu souvent des clôtures de chantier en métal. Donc, on ne peut pas coller sur une… J'ai essayé de partir des produits là-dessus, mais c'est des clôtures très… volatile, ils prennent dans le vent. En tout cas, on n'a pas le droit d'y fixer parce qu'on est dans le mobilier urbain de la ville. C'est bien complexe. J'avais essayé quand même de mettre un encadré avec une toile dedans. Mais je voyais le problème grandir où les chantiers, si aujourd'hui, tous les chantiers qui sont en clôture de métal, ce serait extraordinaire. Je pourrais donner 10 fois plus de visibilité à tous mes clients. Mais vers 2005-2006, j'ai commencé à me dire, ben là, je vais partir une compagnie qui construit des clôtures. Voilà. Fait que j'ai réglé un problème par une solution. Donc, j'ai parti une clôture qui s'appelle clôture de construction publicitaire. Clôture de chantier publicitaire, excusez. On l'appelle toujours CCP Construction. Fait que de fil en aiguille, on a bâti en bon an, mal an, 1 000 à 1 500 pieds linéaires à Montréal, ce qui est l'équivalent de ce qu'on perd en termes de palissade. Et c'est devenu de plus en plus important créer des équipes vraiment, puis vraiment, c'est devenu une entreprise très importante pour nous parce que sinon, on aurait de la difficulté à diffuser vraiment à Montréal. Donc, tu vois, ça m'a amené. C'était pas un échec qui était dû à mon effort ou à mon expérience, mais j'ai trouvé une solution de fil en aiguille. Pour nous, dans le COVID, ben justement, après 2006, j'ai décidé de développer le volet parce que ma mission d'entreprise, Publicité Sauvage, c'était que l'affichage n'est pas cher. Toute la clientèle à l'époque, parce que j'ai pris le marché à peu près en 1996, en 1994, on a présenté à la ville, là, j'en avais marre d'être illégal. En 1992, on a réuni des avocats, un bureau d'avocats, puis on a écrit à nos clients pour avoir un soutien auprès de la ville pour changer, transformer le règlement. Donc, à partir de ce moment-là, ça a pris 2 ans. Il y avait le grand projet d'urbanisme de la ville de Montréal avec M. Jean Doré à l'époque. Et ils ont adoré le projet. On a 60 clients qui nous ont accordé des lettres de soutien. Et en même temps, il y avait de l'autre côté, il y avait M. Choco de design à l'UQAM, qui lui aussi avait fait un recueil sur l'affichage à Montréal, parce qu'eux autres, c'est des designers d'affiches. Et il a fait tout un recueil en prouvant que c'était intéressant, puis ça embellissait une ville, puis c'était beau, une ville avec des affiches, et c'est le cas. Et à Montréal, il y a tellement de culture, fait que c'est extraordinaire. Et voilà, fait que dans les années 2006-2007, par contre, pour maintenir, à cause que j'engage beaucoup de gens, pour maintenir la rentabilité de l'entreprise, c'était toujours... On fait des profits, mais on ne peut pas réinvestir. Il faut toujours... Puis bon, j'ai agrandi toujours le réseau. J'ai fait des choses... Moi, je travaillais aussi ailleurs, dans d'autres compagnies que j'essayais de partir. Fait que j'ai commencé à ouvrir sur le commercial. Ma vision pour moi a toujours été de défendre le milieu culturel. J'ai dit, bien, on va rentrer un créneau, certaines campagnes commerciales, pour aller essayer de chercher un prix qui est le prix média et non pas le prix... que je faisais de l'affichage, que de maintenir mes prix bas. Et c'est pour ça que la culture m'a toujours suivi. Si je mettais les prix à la valeur média pour le culturel, bien, il n'y en aurait plus dans la rue, mais il y aurait des chars partout. Ou il y aurait toutes sortes de produits. Il y en a maintenant. Maintenant, on mixe les deux. Avec la COVID, bien, ça a été une solution extraordinaire. C'est le commercial qui nous a permis de survivre. Sinon...
Et quand on parle qu'on fait la différence entre commercial puis culturel, bien, tu sais, culturel, c'est théâtre, c'est spectacle, c'est festival. Expo, festival. Oui. Commercial, bien là, c'est des marques, c'est des produits.
Des produits, de la mode. Beaucoup de mode, ça va être des produits, bon, Hydro-Québec, Énergir, la Caisse populaire. On fait des choses pour IKEA, ça peut être... on a fait des campagnes. Puis on a développé un côté créatif, ça veut dire qu'on essaie de changer un peu les choses dans la rue. Ça veut dire que, bon, IKEA, il avait fait une campagne avec des boîtes qu'on accroche pour la journée du déménagement pour que les gens puissent déménager. Fait que les gens prennent des boîtes sur les palissades. Une autre fois, c'était des jeans. On installe des jeans sur les palissades. Les gens viennent chercher des jeans. Ça peut être... On a développé des boîtiers rétro-éclairés. Mm-hmm. qui sont des boîtiers à batterie, on a installé des systèmes de batterie pour pouvoir les alimenter le soir.
Il y en avait un que vous avez fait, je me rappelle, c'était un genre de gros hublot, c'était pour une exposition, quelque chose comme ça, puis là, tu allais voir, puis là, tu avais, je pense, un astronaute dans le fond. Là,
oui, t'sais. Ah non, ça, c'était pas le casino, hein, c'était le nouveau, je pense, dans le centre-ville, là, comment on appelle ça, dans le... celui qu'on va... pour aller étudier...
Le planétarium.
Oui, le planétarium.
Oui, c'est ça. Fait que, tu arrivais, tu voyais quelqu'un...
Oh non, c'était la nouvelle chaîne télé...
Ah oui, c'est ça, exactement.
La nouvelle chaîne télé d'information.
Fait que, tu vois une palissade, puis là, tu écoutes une bulle, là, tu vas voir dans la bulle, puis là, tu vois justement...
On avait fait un 3 dimensions avec une façon d'éclairer.
La créativité va au-delà de mettre des affiches pour qu'est-ce qui est du commercial, parce que, ils ont plus d'argent, ils peuvent... Puis là, vous pouvez plus innover là-dedans.
On a fait un mur de verdure avec des produits rochers, puis eux autres s'installent dans la rue, puis donnent les pots à la fin de la campagne de plantes. On a fait une campagne pour Joe Louis. On a installé 1000 Joe Louis sur la palissade, puis tu peux les prendre. On fait des choses comme aussi maintenant beaucoup d'interventions qui ne durent pas longtemps. Ça veut dire qu'ils vont faire un podcast avec. Mm-hmm. On a fait la campagne pour... j'oublie le nom, là, la ségrégation, OK? Tous les mots qui sont utilisés sur Internet pour...
Rabaisser
la personne, tous les types de personnes, tous les types, les hommes, les gays, les femmes. Puis les gars, ils affichaient, c'était 2 heures, le punch. Les gars, ils affichaient, la police est venue... parce que c'était vraiment des paroles assez élevées.
Là, le monde réagissait, puis là, le monde, il y aura plus la police. « Hey, il y a du monde qui sont en train de mettre de quoi sur un mur? »
Oui, vraiment, puis c'était tout filmé, puis ça a fait un gros reportage, puis ça a remporté des prix. Fait que c'est l'instantanéité. On joue beaucoup maintenant avec l'instantanéité. Mais reste que notre but, c'était de protéger le culturel, puis on continue encore à donner un service pour le culturel. On affiche dans les commerces. Encore là, dans les commerces, je ne suis pas un réseau d'encadrés. Je fais juste poser des affiches comme ici. Et on paye pas de loyer, donc on peut encore charger pas cher. Puis on a une bonne entente avec les commerçants. On décore, en fin de compte, leur mur. Puis la régularité, le fait qu'on est là régulièrement toutes les semaines, bien, une affiche ne devient pas périmée et on remet une autre affiche. Donc, il y a une rotation. Fait qu'on a créé comme un envoûtement de cette façon-là pour la culture et une décoration intérieure dans les commerces.
Une dernière affaire, puis je ne sais pas si tu veux, on n'est pas obligé d'en développer tellement, mais dans des défis... Tu sais, il y a le défi COVID, il y a ça, mais aussi, il y a le monde avec qui on s'associe, puis qu'il y a des choses qui peuvent arriver. Qui, moi, là, tu sais, je touche. Là, j'ai pas de bois, là, mais j'ai un associé depuis 25 ans qui est Leonardo.
Je vais t'en trouver. Il y en a, là.
mais tu sais, on est comme la même famille, ça va bien, puis tout ça, mais dans, c'est rare, ça, cette histoire de relation-là en affaires. Puis, quand tu veux partir en business, c'est le fun d'avoir quelqu'un avec qui travailler parce que tu es souvent seul puis tout ça, tu sais. Mais tu peux avoir des histoires qui marchent pas bien pour des histoires. Puis toi, tu en as eu une parce que quand je t'ai commencé à te rencontrer, quand on se parlait à peu près 2016, je pense.
Oui, Culture Cible.
Avec Culture Cible, avec un autre projet. Et là, tu étais, il y avait quelque chose qui se passait avec un associé et tout.
Oui. Mais moi, en 2015, suite à mon échec à la campagne, que là, premièrement, c'est ma période aussi où j'avais trois enfants. Et puis, on est revenu en 2010 à Montréal, parce que là, on en avait soupé du monde des bûcherons. Puis là, ma révolte, puis ma frustration a fait que là, on avait soupé, puis on a dit qu'on retourne à Montréal parce qu'on a besoin de culture, on a besoin de plus. Et puis, en 2015, je me suis dit, c'est bien beau un centre des arts, mais moi, ma vie, c'est l'art. Fait que j'ai toujours peint, j'ai toujours un atelier, j'ai jamais arrêté. Puis je me suis dit, je vais me concentrer à mon art parce que je vais avoir un centre des arts. Ça va me prendre un bon 15 à 20 ans pour qu'il soit beau, que ça soit bien, puis ça fonctionne. Parce que c'est ça, en fin de compte, c'est le temps. Et puis, je me suis dit, m'en recevoir des gens à 65, 70 ans, m'en faire des expos, m'en recevoir des articles. Puis, je vais les regarder, je vais dire, ouais, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie d'artiste? Fait qu'en 2010, je suis revenu, puis là, je me suis concentré vraiment sur mon art. Vous pouvez aller voir baudouinward.com, mais ça va venir, il va changer le site, parce que là, il y a eu un trou de partenariat. Donc, on parle de partenariat. En 2015, j'étais dans mon élan créatif. Pendant ces 5 ans-là, je me suis consacré à la peinture. Et cette année-là, je faisais 5 expositions, dont une à New York, une dans le bas du fleuve, à Kamouraska, à Saint-Hyacinthe, puis des performances. Je remontais sur scène parce que j'étais performeur quand j'étais plus jeune. Fait, j'ai fait 3 performances et il y a eu l'opportunité d'acheter le building pour l'entreprise. J'avais déjà mis une offre d'achat dans mon bail qui venait à échéance en 2012. Mais en 2012, le propriétaire ne voulait plus nous vendre. Fait que lui avait mis une super hypothèque sur le building en partant un gros projet. Bref, une autre histoire. Fait que je ne pouvais plus acheter. J'achetais ses dettes. Fait que je ne pouvais pas. C'était trop cher en plus. Et alors, j'ai mis ça sur la glace. Puis que là, quand ça s'est sorti, lui a fait faillite. Il y a toute une saga légale. Ça a duré 4... À peu près, en 2015, les nouveaux propriétaires sont venus nous voir en disant « OK, on a sorti le building de la faillite, on peut te le vendre, c'est le temps, tu la jettes, sinon nous on le vend. » Fait que oui, j'ai dit oui, j'avais une option d'achat, il n'y avait pas le choix. Fait que je l'ai dit oui, mais là, avec les banques, tout ça, la compagnie avait diminué depuis 2 ans. Je n'avais pas les moyens financiers d'avoir le cash down pour acheter. Le prix avait augmenté aussi. Alors, c'est à l'époque que ma directrice m'a approché pour dire, « Bien, gars, on pourrait, nous. » Parce que moi, j'ai dit, « Bon, ben j'ai manqué mon tour, ça arrive. Meilleure chance la prochaine, on verra. » Puis elle est venue me voir, elle dit, « On pourrait peut-être s'associer puis mettre les sommes nécessaires pour le cash down. » C'était pas énormément d'argent. Puis elle dit, « On pourrait en parler à notre comptable agréé avec qui je faisais affaire depuis 25 ans, un ami que j'appréciais. » Et ma directrice faisait 15 ans qu'elle était avec moi et ma teneuse de livres qui faisait 10 ans. Fait que je dis, waouh, c'est le fun, on va faire un team. Puis je vais avoir enfin mon team à moi pour mon comptable agréé pour qu'il me coach davantage au niveau des livres. Et j'avais mon équipe. Fait que j'ai dit, OK, on embarque. Ils ont mis l'argent, j'ai fait confiance. Mon comptable, mon avocat, qui est le bon ami de mon comptable, parce que par lui, je l'ai connu. Ça fait 20 ans que je fais affaire avec lui. Mais ils sont associés aussi dans l'immobilier. Donc, mon comptable avait une main mise un peu sur ces gens-là. Et lui, c'est un bonhomme qui a été reconnu. J'ai gagné une cause qui a été 6 ans de ma vie. Donc, reconnu coupable d'une arnaque. Il a vraiment été... Quand on parle d'association, ben moi, je pensais que ça me donnerait des ailes pour ma carrière d'artiste. Enfin, il a lancé. Et puis, ça a été au contraire un autre échec d'une certaine façon, mais un échec qui m'a fait grandir énormément aujourd'hui. Quand tu es dans l'action de cette... C'est un combat en réalité, ça devient plus un travail. Tu dois protéger tes avoirs parce que là, on veut t'évoler.
Parce que c'est ça, là, il est en train de te tasser de là pour comprendre ce qui se passait. Oui. Et là, moi, je me rappelle, toi, tu étais là, « Non, ça ne marchera pas, il faut que je fasse ci. » Puis là, tu disais, « Je ramasse mes affaires, mais là… » Et là, tu retrouvais tes paperasses, tes affaires. Puis fait que tu sais, toi, tu avais ta business, tu avais Publicité Sauvage.
Ben oui.
Et tu avais le building que tu as eu avec eux, mais là, eux, ils étaient en train de tout reprendre pour dire, « Ben regarde, là, c'est
en fait, pas ça. » En fait, les termes du contrat, comment ils avaient été rédigés, c'est que j'avais 52% des actions. Donc, le comptable m'avait fait à croire que je continuerais à l'aider les affaires. Puis, en fin de compte, il y avait une clause du côté administratif qui était le 88%. Et j'avais aussi donné la signature du compte de banque à mon comptable, parce que je faisais confiance. Et là, le 88% des votes, lui, il l'a associé à toutes les décisions d'entreprise, ce qui n'était pas vrai et ce qu'il n'avait pas le droit de faire. Mais par...
Son expérience en fraude.
En fraude, bien, il mettait la pression sur tout le monde. Puis il y a vraiment, je sais c'est quoi régner, diviser pour mieux régner, parce qu'il y a vraiment divisé les gens dans l'entreprise. Fait que ça a été une expérience assez pénible, je dois l'admettre, parce que surtout que mes enfants, mon plus jeune avait 10 ans, 10, 15 puis 16, là, eux ils en ont eu souper parce que tu deviens omnubilé par ça, parce que tu crois vraiment que tu vas tout perdre. Tu peux tout perdre. Puis un jour, je suis sorti de là, j'ai eu une personne qui m'a aidé. Encore là, il y a toujours des gens... La vie est bien faite parce qu'il y a vraiment un comptable agréé qu'une amie m'a référé, à qui j'ai été voir, puis je voulais de l'aide pour comprendre comment travailler avec un conseil d'administration. Je n'avais jamais travaillé avec un conseil d'administration. Et puis, là, lui a lu tout ça, il ne voulait pas embarquer dans le côté que c'est bizarre ton contrat. Il dit, on va voir. Et j'ai réussi à le faire entrer dans ma compagnie pour, comme une personne interposée entre nous pour nous donner... la façon de fonctionner en conseil d'administration, mais ça n'a pas été long qu'on a compris le contrat, puis on a vu la mauvaise volonté de l'autre qui voulait décider tout. Puis ça a commencé avec une simple carte de Noël que je voulais publier à cette année-là, en 2015, vu que je revenais, puis nous, on est dans le papier, je voulais faire une carte de Noël. Avec la carte de Noël, bien, je faisais un... Puis là, à dernière minute, à 5h30 chez nous, j'ai appris l'imprimeur, qu'il avait écrit à l'imprimeur pour arrêter la job parce qu'il n'était pas d'accord, puis que ma directrice n'était pas vraiment d'accord non plus, donc qu'il n'y avait pas le 88%. Et c'est là que j'ai compris qu'est-ce que j'ai fait. Et ainsi de suite, deux mois après, pour un cellulaire, je suis le président de mon entreprise, puis on commence à m'ostiner que j'aurais... Est-ce que mon cellulaire fonctionne? Est-ce que j'ai été voir le technicien? Mon comptable me revient en disant, « Oh, je pense que j'en ai un chez moi, je vais te le rapporter. » Je venais d'en donner un à un vendeur en 5 minutes. Là. C'était comme, la pression était mise sur moi. Bref, de fil en aiguille, à l'automne 2016, le pouvoir que j'avais du 52%, c'était que je pouvais interdire la sortie d'argent des dividendes, leur premier dividende. Et leur dividende... On l'a interdit, parce que ma soeur était partenaire aussi avec moi. On a voté contre, donc ils n'avaient pas le 88%. Et 10 jours après, j'arrive dans le compte de banque et ils ont sorti l'argent. Mais là, je te dis que les cheveux te frisent à la tête, puis tu as vraiment l'impression que tu peux tout perdre, puis qu'ils peuvent vider le compte de banque. Mm-hmm. Cette sensation-là a été débile. Là, je suis allé chez mes avocats, puis c'est comme ça que j'ai parti de la cause en 2016. Et ça a pris, j'ai gagné en 2018. Mais là, ils ont amené ça en appel parce que c'est des gens qui ont l'art de la fraude, c'est de t'épuiser. T'épuiser financièrement, t'épuiser aussi psychologiquement. Et c'est vraiment difficile. Moi, c'est parce que j'ai vraiment appris des techniques quand j'étais plus jeune de taoïsme. J'ai fait beaucoup de méditation parce que tu fais des crises, tu viens malade. C'est tes motifs. Premièrement, c'est une trahison. Mm-hmm. Les deux premières années, c'est une trahison de gens que tu aimes. Ça, c'est le pire, je crois, à vivre. Puis tu es confronté à eux tous les jours qui te dénigrent devant tes employés et qui te mettent toujours des bâtons dans les roues dès que tu arrives avec quelque chose. Ça ne m'a pas empêché d'augmenter le chiffre d'affaires d'1 million cette année-là. C'est ça qui les a surpris, parce qu'il y a une autre tactique dans ces contrats-là, c'est que si la compagnie va mal, ben les actionnaires sont obligés de réinvestir de l'argent. Mais là, c'est mon comptable, il sait que j'ai pas d'argent, j'arrive de la campagne, j'ai plus une scène, j'ai vendu mes avoirs, j'ai pas de maison, j'ai rien, il me connaît, c'était mon comptable aussi, personnel. Donc, ce que où je voulais en venir, c'est
que... Il va arriver, t'as pas d'argent, mais là, t'as amené un million, tu sais, t'as amené...
Non, c'est ça, le fait que j'amène autant de chiffre d'affaires, ça fait que la compagnie va bien. Fait qu'ils peuvent pas faire dépérir, puis c'est ça qu'il est en train de faire, essayer de faire dépérir l'entreprise pour réinvestir. En réinvestissant, mettons, 100 000 $
Ils gagnent des parts, oui.
Ben oui, parce que puis moi, je peux pas, ben ils vont dire, OK, on va le faire pour toi, mais là, ça dilue tes actions, puis à ce moment-là, tu tombes plus à 52 % mais en bas de 52 % Puis là, ils te disent après ça, ils viennent te dire, bon, mais là, tu peux t'en aller chez vous, là, tu vas recevoir le salaire que tu as, puis on va s'arranger avec le reste. Fait que c'est, ça n'a pas été le cas, mais ça m'a permis... Moi, une chose qui était claire pour moi en 2016, c'était, gars, je suis responsable d'avoir signé. Je pense que le principe même de comprendre que vous êtes responsable de vos actions dans la vie, il n'y a rien qui arrive à cause des autres, même si tu rencontres un méchant, c'est ta décision tout le temps, ta responsabilité. Fait que là, je leur ai dit en 2016, en février, je dis, gardez là, cette convention-là, je l'ai lancée sur la table, j'ai dit, OK, je vais vous le prouver que c'est une arnaque. Je suis responsable, j'ai signé, je vais assumer ma responsabilité puis ma compagnie va aller de l'avant. Puis c'est ça qui m'a permis d'avoir le gosse, parce que, écoutez, je n'avais pas une scène. Ça a coûté une fortune d'avocat, mais l'argent est arrivé. J'ai emprunté, j'ai eu des marges de crédit sur mes autres entreprises. Mon frère m'a aidé, ma sœur m'a aidé, puis j'avais pas assez d'argent. Des amis m'ont prêté de l'argent, puis il fallait qu'ils croient en moi, là, parce que si je perdais, c'était des dettes, tu comprends? Mais ma détermination, c'est ce qui fait la force d'un entrepreneur. T'es déterminé, parce que...
T'étais persévérant?
Très persévérant. Fait que ça a été une expérience assez intense, très difficile, comme je vous dis, pénible. Dans le coup, quand tu es dedans maintenant, j'en suis sorti, là, c'est vraiment l'année. Mais en même temps, le COVID est arrivé, c'était pas tout à fait fini. Donc, c'était une pression de plus. Toutes les façons qu'on voulait aller chercher du financement pour pouvoir passer à travers la crise, on a quand même passé de 50 employés à l'époque à peu près 18 employés. Mais maintenir la place, tout ça, fait que ça nous a permis vraiment de là, avec eux autres qui nous mettaient des bâtons dans les roues pour le financement, ça a été une saga. Si vous voulez aller voir, allez sur la Soquige, vous irez voir...
La Soquige qui est quoi?
Qui est le site des jugements à la Cour supérieure. Ou tapez Cour supérieure, jugement, puis ça va vous amener à la Soquige. Puis vous tapez mon nom, WART, vous allez voir qui est à côté. Je n'ai pas envie de le nommer, je n'ai plus besoin. Et puis, vous allez voir, c'est une saga extraordinaire parce qu'on est allé en cours plusieurs reprises pour des décisions dans l'entreprise. La cour d'appel, il est allé en appel, donc ça a duré une année et demie de plus. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable, je vous le dis. Ça voudrait un livre. Aujourd'hui, c'est devenu une jurisprudence dans le monde des affaires au Québec. Puis c'est utilisé. Mes avocats m'ont appelé dernièrement pour me féliciter. Un autre avocat, à un moment donné, m'a dit « Baudouin, t'es mon héros! » C'est comme parce que personne va... Normalement, on règle à l'amiable parce que c'est toujours une perte d'argent d'aller à la cour. Les avocats s'en mettent plein les poches. Les durées, on n'en a aucun contrôle. On ne sait jamais quand est-ce qu'on va passer. Et la stratégie aussi, c'est de faire durer, comme je vous dis, c'est d'épuiser les portefeuilles de l'adversaire. Mmh. Beaucoup. Fait qu'à un moment donné, tu t'arrêtes puis tu perds parce que tu n'as pas les moyens. Mm-hmm. Aujourd'hui, ben, je suis très heureux parce que là, j'ai encore été plus loin dans ma compagnie. On n'a jamais fait des records comme ça de l'après-COVID. Cette année, je peux dire que je suis fier parce que j'ai une compagnie qui roule sur des roulettes. J'ai une nouvelle équipe. Parce que ça a supposé une réorganisation, ce qui était assez pénible. Les séquelles d'un conflit aussi comme ça, les employés ont pris des façons de voir les choses. Mm-hmm. Ils se sont organisés tout seuls dans leur coin parce qu'ils ne voulaient pas se mêler de rien à un moment donné. Fait que il a fallu réouvrir réenseigner la passion.
La culture d'entreprise, de
spreader la culture dans Montréal à travers le milieu, à travers. Et du plaisir à travailler. Et non pas d'être à une job puis venir chercher ta paye.
Mais félicitations, c'est un bon, c'est quelque chose de bien. Qu'est-ce que tu ferais différemment là, à partir de là, des associés qui arriveraient ou des gens, comment tu travaillerais
ça? Quand t'es autodidacte, tu lis souvent ça, que les bonnes entreprises finissent toujours par avoir un bon partenariat. Je crois que c'est possible. Moi, en ce moment, évidemment, je serais backé en termes de contrat. Je pense que l'objectif serait vraiment les rêves de chacun dans la passion. C'est pour des gens qui sont guidés par la passion, je pense qu'on maintenant tu peux les sentir. Là, c'était plutôt moi qui étais dans mon monde pensant que j'avais des gens qui m'aimaient, mais je n'ai pas vérifié. Puis on lit dans tous les livres, vérifiez, faites vérifier. Je ne suis pas un comptable, je ne suis pas un avocat. La loi, mais les bonnes entreprises, ils ont des bonnes ententes. Puis quand tu veux t'en aller, c'est une bonne façon de t'en aller. Il y a les moyens de le faire, puis tout le monde est gagnant-gagnant. En fait, quand tu fais des affaires pour que tout le monde soit gagnant, quand on parle vraiment gagnant-gagnant, c'est que tu t'offres un service qui fait que la personne est satisfaite parce qu'elle est heureuse du service que tu lui as rendu, bien, il est gagnant, tu es gagnant, il est content de te payer. Fait que pour moi, c'est ça. Je pense que ça sera encore possible parce que j'ai évidemment des rêves à l'infini. Puis en même temps, bien, je suis rendu à un âge où j'ai un peu plus de sagesse, j'aurais plus une facilité de rencontrer des personnes où on serait capable, je crois, d'arriver à quelque chose. Mais en même temps, c'est un monde de requins. C'est carrément, quand tu vois, j'ai appris des histoires comme ça où des entrepreneurs ont tout perdu à cause de leur comptable dans un âge avancé, quand l'entreprise va bien, puis font confiance à leur comptable. Mais faites toujours vérifier vos papiers par au moins deux spécialistes. Moi, je n'osais pas parce que ça va me coûter 500$. Je fais confiance à Paul, voyons, c'est mon avocat. Rob, je fais affaire avec. Je veux dire, tu ne penses pas qu'ils vont te crosser, comme on dit. Fait que, mais ça, c'est la responsabilité d'un entrepreneur. Tu dois vérifier tous les aspects légaux. S'asseoir avec le gouvernement. Tu engages un comptable parce que tu sais que les lois qui peuvent changer au niveau de l'impôt, tu sais qu'il y a des choses à faire, mais tu n'as pas le goût d'y faire comme entrepreneur. Moi, je ne suis pas un gars de lit, je suis un gars de terrain, je suis un gars d'action. J'ai mes qualités. Mes qualités, c'est de déléguer, mais il faut que j'aille chercher la bonne information. Ça prend du temps à prendre cette habitude-là et de prendre les moyens, même si ça a l'air de coûter cher. Quand on est jeune, on dit « Ah, Chris, 300$ pour aller voir un comptable, c'est beaucoup d'argent. » Moi, quand je vois l'argent que ça m'a coûté aujourd'hui, les années que j'ai perdues aussi dans ma passion, parce que là, c'est devenu un combat, quand tu dis qu'à tous les jours, tu te lèves pour aller te battre et défendre, pas te battre, te défendre tes convictions, défendre ton entreprise, défendre ton service, parce qu'en fin de compte, eux, ce qui les intéressait, c'était l'aspect immobilier. On le voit, moi, en 6 ans, bien, le building a doublé. Puis c'était un de leurs projets, à un moment donné, de mettre ça à terre puis de bâtir de quoi de plus gros. Donc, ça n'a plus rapport avec publicité sauvage, avec l'âme de la culture. Ils s'en foutent, tu comprends? Ouais. Fait que ça, faut que tu sois avec des antennes pour sentir ces choses-là. Là, moi, j'étais dans ma bulle d'artiste, j'étais dans mon atelier. Les affaires, je les connaissais depuis longtemps. Fait que c'est pour ça que tu dis, ça va bien aller. Ça va être génial. Puis aujourd'hui, si on n'avait pas eu ça, quand je regarde l'argent qu'on a mis chacun, puis lui, il paye des gars parce que c'est un gars est très orgueilleux, il doit payer des avocats à 500$, si ce n'est pas 800$, plus des spécialistes pour essayer de prouver des choses, trouver des façons de prouver des choses de façon rocambolesque, c'est fou. Bref, je vous le dis, prenez le temps de faire vérifier, trouver des amis qui ont quelqu'un de professionnel si vous n'avez pas les moyens. Mais ne signez pas tant et aussi longtemps que vous n'avez pas compris ce que vous signez. Puis ça, c'est l'erreur qu'on fait, je pense. Je suis le meilleur
exemple,
exemple pour ça parce que, je veux dire, j'ai signé un contrat à 55 ans puis qui m'a gobé 5 ans et demi, 6 ans de ma vie. Puis là, ça va me prendre encore quelques années, me remettre.
Non, récupérer,
parce que, au niveau santé, j'ai pas eu de vacances, j'avais plus d'argent. Parce que mes budgets ont été coupés, c'est eux autres que j'avais aussi. J'avais fait des concessions sur mon salaire, mais de la façon dont mon salaire avait été déclaré dans la convention, j'étais en dividende. Fait que quand ils ont sorti les dividendes, bien, le juge a arrêté la sortie de dividendes. Fait que j'ai perdu un des gros montants de ma paye. Fait que je me suis retrouvé avec des dettes que j'arrivais pas à payer. J'ai été obligé d'avoir un locataire, tu sais, chez moi, en plus de mes enfants, à 56 ans. Tu sais, fait que c'était comme, tu reviens, puis j'ai commencé à magasiner pour les épiceries. Je te jure.
Hey, mais avant qu'on fasse l'entrevue, tu me disais, on va pas parler une heure, hein, Nelson?
Non,
je pense que ça doit faire une
heure. Oh non, ça fait juste 5 minutes. Hein?
Merci beaucoup, Baudouin. Ouais, c'était vraiment un super partage. Est-ce que y a des gens qui ont des questions aussi, Baudouin, par rapport à l'histoire, par rapport au parcours, par rapport à faire des ententes? Oh, il y a quelqu'un dans le fond de la salle. Il faut que je cours aller en arrière.
Oui, donc en fait, c'est quoi la suite maintenant pour Publicité Sauvage? Puis, parce que là, on a parlé de plein de choses, d'innovation.
Oui, on est en pleine réorganisation depuis la COVID. Évidemment, on subit le même problème que toutes les entreprises en manque d'employés. Donc, on a ce problème-là donc, à régler. Fait qu'on est en progression vers une mise en place. La réorganisation va bien. Moi, je me suis donné des délais. Maintenant, je vois plus ça sur des trimestres, trois mois. Je pense qu'on va se contenter d'améliorer nos effectifs pour le travail puis le service, parce que il y a des périodes où c'était un peu plus difficile pour arriver à avoir le même service qu'on avait avant. Et puis, moi, je me reposais. Parce que les idées viennent aussi quand on ne fait rien. J'ai des idées. Par rapport à moi, c'est mon retour à mon art. Et aujourd'hui, c'était un petit peu une ouverture de dire, ben gars, je pense qu'il est temps de transmettre cette connaissance-là aussi. Je pense que j'arrive à un espace dans ma vie. Publicité Sauvage va continuer pour plusieurs années parce que notre objectif va être de valoriser le papier face au numérique. Et je pense que ça va devenir un must même avec le temps. Puis le papier, ça reste encore très abordable, très, très abordable. Et la visibilité est là. Donc, j'ai une problématique à créer des espaces. Fait que ça va venir avec... j'ai des idées là-dessus. Puis, j'ai toujours voulu mettre de l'art partout dans la rue. Fait que j'ai un autre volet qui s'appelle Artevista, que je ne vous ai pas parlé. Mais là, je le transforme en OBNL pour aller dans le monde de la subvention pour pouvoir mettre des œuvres sur les murs de Montréal qui sont comme des encadrés, mais pas des murales. Fait que c'est tout, mais c'est beaucoup de travail. Fait que là, je prends un pied de recul.
Il y a un encadré comme ça que j'ai vu, puis je savais pas que c'était toi, puis je l'ai su par après. Je me rappelle pas c'est où, mais c'est sur un mur, il est immense, puis c'est Cyrus.
Oui, c'est ça, c'est la Gauchetière et Saint-Urbain.
La Gauchetière et Saint-Urbain.
D'accord. Puis tu vois, ça, c'est un tableau qui est là depuis 12 ans au moins. Tu vois, fait que. Mais j'ai jamais réussi à vendre Artevista parce que c'est trop cher au corporatif. Artevista, c'est une banque d'artistes qu'on avait. On proposait à des entreprises des tableaux à mettre, mais pas des murales, parce que pour moi, la murale, ça abîme le mobilier urbain. Les gens vont s'en rendre compte avec le temps, parce que la brique ne respire pas. Puis j'ai vu des murs de briques qui durent 100 ans, durer 15 ans, puis ça s'effrite tout. C'est pour ça qu'ils remettent du ciment maintenant. Fait que c'est une autre façon et c'est un autre art. Moi, on voulait vraiment l'art contemporain dans la rue, sortir des musées. Là, on a commencé avec Art urbain à le faire par l'affiche. Vous avez vu, il y a Mémoire du futur qui est dans la rue en ce moment, qui est en conjointure, ça se dit pas bien.
Collaboration.
Ouais, en collaboration avec Art souterrain. Donc, dans Instagram, ça roule. Art urbain roule dans Instagram. Fait qu'on commence à bâtir aussi le volet des nouveaux médias, les plateformes numériques, APS, à Publicité Sauvage. À cause du conflit, eux autres n'ont jamais voulu mettre d'argent là-dedans. Puis ça fait longtemps que je veux faire plein de choses. On est dynamique, on est dans la rue, mais il faut l'amener sur le web. Fait que s'il y a des projets...
ça n'arrête pas.
Puis grossir. Pourquoi pas?
Pourquoi pas rendu là? Merci beaucoup, Baudouin. C'était vraiment un plaisir de t'avoir ici.
Un plaisir.
Content de t'avoir. Fait que merci.
C'est lui qui a fait mon site web en 19.
Oui.
Maintenant, tu
peux être du partenariat, t'en as fait. J'ai, oui, beaucoup. Oui, c'est ça. Oui, il y a des collaborations, des partenariats, des projets, des coops, des affaires de même. Là, faire des ententes avec du monde, pas s'entendre avec le monde, essayer de trouver comment on va trouver une nouvelle entente avec le monde. Toutes ces affaires-là, c'est comme ça. Oui, c'est ça. Mais merci beaucoup. À vous tous d'avoir écouté jusqu'à la fin, d'avoir été là. Vous pouvez réécouter ces entrevues-là sur le site tracetonchemin.com, tracetonchemin.com. Il va y avoir en vidéo, il va y avoir les podcasts. Puis, je vous invite demain à venir au Parc Basile-Roussier parce qu'il y a d'autres conférences, il y a des ateliers, il y a des kiosques, il y a de la bouffe et tout ça. Merci beaucoup.